France Culture. France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une grande question aujourd'hui dans votre Book Club, comment les attentats de janvier 2015 au journal Charlie Hebdo, à l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris, à Montrouge, plus tard ceux du 13 novembre 2015, comment ont-ils pénétré la production littéraire des 10 dernières années? Selon quel motif? En produisant quelle figure? Avec quelle pensée aussi? Et éventuellement, quel rempart, non pas au terrorisme en soi, mais à la terreur qu'ils visent et provoquent? En nous appuyant sur un corpus de textes choisis et les recherches de deux universitaires, nous allons tenter d'y réfléchir ensemble aujourd'hui. Vers 15h50, comme chaque mardi, rendez-vous avec la journaliste Nicole Vulser. Elle éclaire pour nous des aspects économiques du monde des livres et se demande aujourd'hui comment les auteuristes pourraient suivre en temps réel les chiffres de vente de leurs livres, et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et en fin d'émission, on termine en chanson grâce au grand jeu des pages musicales qui cherchent avec vous de la musique dans les livres. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Aline Marchand.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en littérature française du 20e et du 21e siècle à la Sorbonne Nouvelle. Vous avez participé à un dossier qui s'appelle Writing Terrorism dans une revue qui s'appelle Contemporary French and Francophone Studies. Bienvenue à vous dans le Book Club. Et bonjour Cécile Châtelet.
Bonjour.
Vous êtes aussi spécialiste de la littérature contemporaine, vous enseignez à l'Université catholique de Louvain et vous avez participé à ce même dossier sur l'écriture du terrorisme. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui et merci à la fois d'avoir accepté cette invitation à réfléchir ensemble et d'avoir aussi un peu préparé avec nous à l'élaboration du contenu de cette émission. C'est une réflexion qui va être en chantier, on va proposer des pistes aujourd'hui. Évidemment, elles ne seront absolument pas exhaustives, non plus en termes de corpus, non plus en termes des propositions théoriques, non plus en termes de conclusions que l'on pourrait tirer sur un champ que vous étudiez par ailleurs très largement. Mais pour nous, au Book Club, c'était intéressant voilà, d'attraper cette date du 7 janvier 2015 et de proposer comme ça une lecture a posteriori d'un corpus littéraire qui existe vraiment depuis 10 ans. Commençons par là, c'est-à-dire ces textes, ils arrivent dans les maisons d'édition. À partir de quand? Est-ce que c'est tout de suite après? Est-ce qu'ils diffèrent en fonction de la durée qui les éloigne des faits évoqués? Je précise juste, mais vous le ferez, qu'on va aujourd'hui évidemment partir de ces attentats de janvier 2015, mais qu'on va englober dans une réflexion générale ceux de la fin de l'année, c'est-à-dire novembre 2015.
Oui, c'est vraiment intéressant d'essayer de distinguer plusieurs moments. On peut voir qu'il y a des premières séries de textes qui apparaissent assez rapidement après les attentats, dès en fait l'année 2015. Et on va dire qu'il y aurait une borne, première borne entre 2015 et 2017, où ce serait la mémoire personnelle de l'événement, c'est une expression d'Isabelle Delorme, qui serait consignée dans les textes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des textes qui cherchent à donner surtout de victimes ou de proches de victimes des attentats, qui cherchent à donner ce qu'ils ont vécu ce jour-là, que ce soit pour les attentats du 7 janvier ou pour les attentats du 13 novembre. Donc de raconter leur Bataclan, c'est Fred De Wild qui, dès 2016, publie Mon Bataclan.
Donc on est très vite après, parce qu'en plus, qui dit 2016 en librairie, dit écriture et travail d'édition vraiment très 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 proche de l'événement.
Tout à fait, surtout pour un auteur qui donc a été impliqué dans les attentats du 13 novembre. Mmh, donc on est à la fin de l'année 2015. Et on a aussi des publications immédiatement après qui sont des publications d'actualité. Mmh. On peut penser aux dessins de presse d'actualité de Riyad Satouf qui, dans les cahiers d'Esther, tout de suite insère ces événements, que ce soit les attentats contre Charlie Hebdo ou les attentats du 13 novembre.
Mais peut-être là, et ça me paraît très intéressant, parce que ça a fait partie, pour tout vous dire, de l'ébauche de réflexion qui a présidé à la programmation de cette émission, c'était d'avoir constaté, nous, à titre très personnel, à l'endroit où nous sommes ici à la radio, la survenue des attentats dans les textes que nous lisions, mais pas tant comme le cœur du texte, mais comme quelque chose qui arrive. Et je prends l'exemple des cahiers d'Esther de Riyad Satouf. c'est dans le flux de quelque chose de beaucoup plus large, qui est la vie de cette jeune fille, etc. C'est pas au cœur des cahiers d'Esther.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est aussi une des fonctions en fait de la littérature et des livres d'enregistrer l'événement, d'essayer d'en faire quelque chose même immédiatement après et en plus avec l'humour qui se mêle à la gravité dans le cas de Riyad Satouf par exemple.
Donc il y aurait presque là, en vous écoutant pour commencer Cécile Châtelet, deux mouvements, la mémoire immédiate, la consignation d'une mémoire très brève, très traumatique et aussi le fait que ça entre dans le flot de ce qui s'écrit, de ce qui se dessine.
Exactement. Et on peut d'ailleurs voir que ce même distinguo, il a aussi lieu dans la deuxième vague des textes qui arrivent après les attentats, donc plus 2018-2021, si on essaye de faire une périodisation qui cette fois s'attarde plus à proposer une mémoire collective de l'événement. Donc c'est moins focalisé peut-être juste sur le parcours d'un individu et ce qu'il a vécu de manière traumatique. Lors de ces événements-là, mais qui cherche aussi à rendre les attentats intelligibles, à produire de la connaissance aussi sur les attentats. Donc on a toute une série de récits d'enquête, de reconstitution, une approche du documentaire aussi de ces événements, et puis dans ce qu'on a pu appeler des autopathographies, donc des récits de victimes également, qui examinent leur maladie, les séquelles traumatiques, mais sous l'angle aussi de l'évolution, donc dans un temps plus long. C'est pour ça aussi que ces textes sont publiés après.
18 et 21, donc on est quand même à la fois jusqu'à plus 3 et plus 6 ans après les attentats de 2015. Est-ce qu'il faut entendre aussi Cécile Châtelet dans cette dimension où quelque chose de plus collectif arriverait dans les publications ? L'idée selon laquelle la littérature travaillerait aussi un corps commun. Ces attentats ne seraient pas arrivés qu'aux seules victimes ou aux proches des victimes, mais aussi à ce qui serait un corps collectif, un nous, une nation, un peuple, même aussi parfois des amis, des familles, enfin quelque chose de cet ordre-là.
Oui, je pense que c'est très juste de le formuler comme ça, et ce sous un peu deux angles. Déjà parce que c'est quelque chose qui importe à beaucoup d'auteurs du corpus de faire passer non pas juste leurs paroles dans les textes, mais aussi celles de leurs proches. On a, que ce soit du côté de Erwan Larère, de Georges Salines, et beaucoup d'autres, l'insertion de la parole ou de textes produits vraiment par leurs proches, de tweets, de posts Facebook qui sont réinsérés et qui permettent en fait justement de montrer la dimension vraiment collective de l'événement, les différentes réactions et les discussions qui s'engagent à partir de ces événements traumatiques.
Et est-ce qu'on a une troisième période qu'on pourrait dessiner comme ça encore à grands traits ?
Oui, tout à fait. Ce serait plus le moment, donc à partir de 2021-2022, avec notamment le procès qu'on a appelé V13 pour le procès des attentats du 13 novembre. Et à ce moment-là, parce qu'il y a l'ouverture de ce procès, du côté des victimes qui se constituent partie civile, on a un nouveau temps aussi on a eu en préparation du procès, juste en amont, un nouveau temps de réflexion sur les événements, une nouvelle manière aussi de raconter les événements. Sans compter que l'événement même du procès, qui était assez massif...
devient un événement.
Exactement. Et ça veut dire que ça aussi, ça passe dans la littérature, que ce soit pour des questions donc, de description de modalités de la justice, de quelles sont les réparations possibles pour les victimes, mais aussi une autre manière de revenir sur le déroulé des actes, de proposer des reconstitutions judiciaires, et tout ça rentre aussi dans les textes.
Là, quand vous parliez aussi de la sorte de proportion entre la durée qui vient après l'événement, le surgissement de l'attentat, de la terreur et de la violence, et les livres qui sont produits, il y a aussi la connaissance qui peut s'élaborer petit à petit, ce que vous appelez aussi une montée en finesse de cette connaissance-là. Mais on ne perd pas de vue que, par exemple, pour le procès des attentats du 13 novembre 2015, je pense à deux textes que sont un texte de Yannick Hennel ou un texte d'Emmanuel Carrère. On ne rentre pas que dans des textes informatifs. Enfin, c'est vraiment de la littérature au sens où la forme, la langue, tout ça reste actif, reste importante.
Oui, alors, Et quelqu'un comme Emmanuel Carrère, il a l'habitude aussi de travailler
au réel, ouais.
Exactement, la non-fiction et de se confronter à ça d'une manière qui est littéraire. Donc il y a à la fois un enjeu d'investigation, d'enquête, de compte-rendu, quelque chose de l'ordre de la chronique judiciaire peut-être plus connu, mais aussi vraiment d'élaboration et de chronique en chronique, c'est aussi ça qui fait livre. D'un discours sur le procès en lui-même et ses acteurs, que ce soit les acteurs du palais de justice, mais aussi les victimes, comment on considère les avocats, tout ça est constitué aussi en personnages, par exemple, toute cette galerie de portraits. Et oui, ça, clairement, c'est un des enjeux littéraires qu'on voit apparaître même dans ces non-fictions.
Le dossier dont je parlais en introduction et qui vous fait intervenir toutes les deux, Cécile Châtelet et Aline Marchand, c'est un dossier qui est paru en 2020, c'est-à-dire qu'on est 5 ans après les faits, mais c'était aussi il y a 5 ans. Vous écrivez avec quelle intuition, Aline Marchand, en 2020, avec quelle idée d'un corpus littéraire déjà constitué ou se constituant? Comment vous le regardez naître, ce corpus-là? Et est-ce que nous, de notre côté du Book Club France Culture, on a raison d'avoir l'intuition que oui, en effet, c'est pas n'importe quoi qui se passe, il y a vraiment un événement dans ce qu'on appelle le champ littéraire.
Oui, alors c'est un corpus que l'on a vu se développer d'une façon assez vertigineuse, je dois le dire, et à plusieurs, hein. Donc c'est un travail d'équipe, puisqu'on est sous l'impulsion de Catherine Brun, qui a créé cette équipe Écrire les 13 novembre. On est un ensemble de chercheurs et de chercheuses en littérature, à avoir voulu s'intéresser justement à ces écrits portant sur le 13 novembre, et ça a été très tôt, donc on ne savait pas encore si ce serait un corpus très fourni ou pas, très varié, très intéressant. Et donc, de fait, en 2020, on commençait déjà à avoir un certain nombre d'écrits, à la fois donc des fictions, des témoignages, des essais, de la littérature jeunesse, bande dessinée, littérature jeunesse aussi, qui a investi aussi les questions que posait et le choc suscité par les attentats. Donc on avait comme ça un corpus qui se dessinait, et aujourd'hui on peut se rendre compte qu'effectivement notre intuition, mais à confirmer, hein, parce que ce sont des hypothèses sont très difficiles, qui sont encore en travail. C'est, me semble-t-il, qu'il y a cette césure en 2021, dans la mesure où il y a donc cette succession de procès pour Charlie, et puis procès ensuite pour le 13 novembre, où en fait il y a à la fois la mise en présence de différents acteurs, victimes, proches, les soignants aussi, le travail aussi des enquêteurs qui a été rassemblé,
exhumé, autre décor, en fait,
complètement. Hein, ouais. Donc il y a des archives, des documents qui sont découverts à l'occasion donc de ces procès. Il y a donc des chroniqueurs, le travail des journalistes, et puis il y a le travail de médiateur, je dirais presque, de certains écrivains comme Yannick Hennel, qui a ensuite repris ses chroniques pour le procès de Charlie dans Notre Solitude, et puis Emmanuel Carrère pour ensuite le procès concernant le 13 novembre, qu'il a repris donc dans V13, on parlait Cécile Châtelet à l'instant. Et on voit aussi cette césure, me semble-t-il, en comparant des documentaires dessinés. Et donc je reprends la chronologie qu'esquisse Cécile Châtelet, où en fait, par exemple, on a en 2016, donc c'est très frais, la publication d'un documentaire dessiné qui s'intitule 11-13, reconstitution d'un attentat, où là, en fait, on est vraiment dans un récit immersif, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de reconstituer la chronologie des attentats d'une façon assez brut, du côté des acteurs et non pas des victimes. Donc il y a un certain nombre d'informations qui circulent, mais il y a vraiment l'idée de se plonger dans cette chronologie sans véritablement de distance par rapport au déroulé des événements. Il y a une distance critique, bien sûr, mais alors que dans un documentaire dessiné qui paraît bien plus tard, en 2021, La Cellule, Là, on voit l'an, en 2021, donc il y a eu justement la découverte d'un certain nombre de documents. Et là, on est plutôt du côté du récit informatif. Je reprends des catégories qui ont été faites par Raphaël Baroni, où là, on est plus dans l'enrichissement explicatif, plus que dans l'immersion. Et donc, on a la volonté, effectivement, d'expliquer, de comprendre justement le déroulé des événements, mais surtout en amont, ce qui a permis la ce qui a rendu possible ce qui semblait impossible, justement.
Là, aujourd'hui, on est le 7 janvier 2025, donc c'est aussi une date commémorative des 10 ans après les attentats au Charlie Hebdo, le supermarché Hypercacher, la porte de Vincennes et Montrouge. Et pourtant, on a déjà parlé plusieurs fois, là, dans le début de cette émission, des attentats du 13 novembre 2015. C'est aussi que s'ouvre avec janvier 2015 une année qui va être celle qui, finalement, se terminera avec novembre 2015. En termes de champ littéraire, est-ce qu'il faut séparer ce qui se passe concernant janvier 2015 et ce qui se passera ensuite concernant novembre 2015 dans un premier temps à Aline Marchand en termes de masse? Est-ce qu'il va plus s'écrire de choses à propos de novembre 2015 que ne s'écriront de choses ou que ne se seraient écrites de choses à propos de janvier 2015? Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Et qu'est-ce que ça nous raconte aussi?
Oui, bah, ça c'est une question que nous nous sommes posées, à laquelle on a apporté des réponses qui sont peut-être pas totalement satisfaisantes. Hein, c'est toujours ça un peu le travail de la recherche. En fait, au départ, lorsqu'on on s'est intéressé à cette littérature sur les attentats, on vient de plein d'horizons très différents. Donc certains sont spécialistes de la littérature sur le terrorisme, d'autres juste de la littérature contemporaine. Enfin voilà, avec des angles un peu différents. Donc on s'est posé la question justement de quel était le périmètre des écrits que l'on allait interroger. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait une qualité spécifique, des genres à exclure ou pas? On a décidé d'inclure tous les genres.
J'allais vous demander la question de la qualité littéraire.
Oui. Alors, on a décidé de ne pas avoir ce jugement de valeur et de ne pas être dans la discrimination et d'accueillir absolument tous les écrits, de faire une veille la plus exhaustive possible. Alors, avec une petite précision quand même, on ne s'est pas véritablement interrogé aux écrits médiatiques parce qu'il y a d'autres équipes qui s'y intéressent plus, voilà. On s'est même intéressé avec d'autres chercheurs aux hommages anonymes qui ont été déposés dans les rues et qui ont été... récoltés par des archivistes et qui sont donc consultables en partie via Internet, mais il y a beaucoup de dommages qui sont pour plein de raisons qu'on peut deviner, que l'on peut consulter sur demande aux archives de Paris. Donc on a vraiment eu la volonté d'ouvrir le plus possible et de pas avoir d'a priori pour se donner la chance de découvrir justement ce qui se jouait dans les écrits sur les attentats. La question de la date, c'est une question qu'on s'est posée. Alors il y a plusieurs réponses, certaines qui sont peut-être conjoncturelles, d'autres non. Tout d'abord, il y avait l'envie aussi de travailler avec d'autres chercheurs d'autres disciplines. Et donc il y a notamment un programme interdisciplinaire qui est menée par des neuropsychologues, des historiens, des sociologues, Mémoire des attentats, qui s'est constituée très rapidement, en fait, à la fin de 2015, pour interroger la mémoire collective sur le temps long des attentats, de 2016 à 2028.
Et ça recoupe les réflexions du champ littéraire,
j'imagine. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de nous apporter le regard des chercheurs en littérature sur ce qui se joue en littérature. Et du coup, il fallait quand même avoir des points communs pour discuter. Et donc, il se trouve que ce programme-là, c'était sur les attentats du 13 novembre. C'est un élément de réponse. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, on voulait ouvrir et en même temps, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient écrites sur le 13 novembre. Et donc, pour ne pas se laisser submerger aussi, on a fait le choix, on va dire, d'avoir un premier cercle qui est ceux sur lequel on s'est concentré, les écrits sur le 13 novembre, même si ce n'est pas en excluant les écrits sur Charlie. Mais que l'on a objectivement moins travaillé. Donc on les a lus, mais presque pour éclairer en fait les écrits sur le 13 novembre, sachant qu'il y a une porosité entre les deux, pour plein de raisons. D'abord, dans un premier temps, par rapport à la chronologie que tu esquissais, Cécile. Dans un premier temps, parce qu'il y a des références au sein des écrits sur les attentats du 13 novembre, aux attentats dont ont été victimes les journalistes et dessinateurs de Charlie.
Ça devient presque des intertextualités immédiates.
Complètement.
En fait.
Ouais. Et puis, dans un second temps, ou dernier temps, enfin, en tout cas un troisième temps, après 2021, là, il se trouve aussi qu'il y a des je pense, le fait que les procès se succèdent, va aussi nourrir des dialogues entre les deux événements via les écrits sur...
Rapidement sur cette question-là, Cécile Châtelet.
Oui, les échos aussi de la mémoire traumatique des personnes qui écrivent font que, même si nous on s'est concentré sur le 13 novembre, on entend très souvent les gens du 13 novembre parler de Charlie Hebdo et aussi quelqu'un comme Catherine Meurice quand elle écrit La légèreté après avoir été victime des attentats, enfin avoir manqué d'être en conférence de rédaction pour l'attentat de Charlie Hebdo. Elle rajoute 50 pages au moment où les attentats du 13 novembre arrivent alors qu'elle a quasiment fini son manuscrit. Donc on voit aussi quand même cette porosité.
Mais aussi effet de la durée, c'est-à-dire que le temps fait qu'on peut considérer d'un seul coup deux événements survenus quasiment d'un bout à l'autre de l'année se réunir dans ce qu'est 2015, dans ce que devient 2015, c'est-à-dire une année qui s'ouvre avec janvier 2015 et qui se clôture presque avec novembre 2015. Et si on bascule ça en motif littéraire, d'un seul coup ça devient presque une date en soi, sans évidemment nier les spécificités. Alors la question après de qu'est-ce qui s'écrit, comment ça s'écrit, quand ça s'écrit, combien ça s'écrit, à qui écrit. Donc vous l'avez un petit peu détaillé, Cécile Châtelet, Aline Marchand, les victimes, les proches de victimes, les journalistes, les auteuristes qui sont habitués à faire des allers-retours entre la fiction et sa procédure du réel. On a pensé à Emmanuel Carrère, mais il y a aussi des romanciers, il y a des témoins proches, des témoins lointains. Et à chaque fois se pose la question de la légitimité à pouvoir écrire. C'est, selon vos recherches, presque des mises en tension dans le texte lui-même. D'où j'écris? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Pour cette question-là, et peut-être pour rester un tout petit peu encore accroché à notre date du 7 janvier, on va écouter la voix de Philippe Lançon dans une archive de 2018. Il est auteur du Lambeau, qui fait partie du corpus qu'on a choisi de garder pour l'émission d'aujourd'hui dans le Book Club. Il a été victime des attentats perpétrés à la rédaction de Charlie Hebdo en 2015. On l'écoute.
Celui dont il est question dans ce livre est un autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est moi, effectivement, mais que j'ai vécu d'une certaine façon quand j'étais dans une sorte d'état second, c'est le cas de le dire, au moment où j'ai vécu, et puis que j'ai revécu en écrivant presque comme une créature de fiction, tout en sachant que, autant que ma mémoire et mon travail soient précis, et j'ai essayé de l'être au maximum, tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai vécu. Il n'y a rien d'imaginaire. Absolument rien. Mais en même temps, j'avais pas besoin de ce travail d'imagination puisque j'avais le sentiment d'avoir traversé une série de mondes, celui de l'attentat puis celui des hôpitaux. Il y a eu plusieurs mondes dans les hôpitaux, suivant les moments. Et à chaque fois, un nouveau personnage prenait la place du précédent en fonction des pressions auxquelles il était soumis. Et donc de l'imaginaire qui se développait en lui et du rapport qu'il avait à son passé, de rapport à l'avenir, il n'en avait aucun. Et donc voilà, j'ai créé un personnage à partir de ce que j'ai vécu. Une fois, j'ai pour une raison précise, j'ai relu un passage récemment et je me suis dit, c'est toi qui as écrit ça. Serge, point d'interrogation. Je me sens presque plus proche du personnage que j'ai été dans cet hôpital que de celui qu'il a écrit ensuite.
Bernard, s'approchant, m'a dit : Tu ne veux pas faire ta chronique sur Welbeck ? J'étais sensible à son enthousiasme, toujours annoncé par un grand sourire de lapin bienveillant. Sensible à cette candeur particulière, non dépourvue de ruse, qui naissait de ses élans de sympathie et de sa perpétuelle curiosité. Mais j'ai répondu à peu près « Ah non, je viens d'écrire dans Libération ce que j'en pensais, je n'ai pas envie de refaire une ressucée. » Et depuis l'autre bout de la table, Charbe m'a dit « Oh si, s'il te plaît, fais-nous une ressucée. » Il y eut quelques sourires, et c'est à cet instant, blague dite, qu'un bruit sec, comme de pétards, et les premiers cris dans l'entrée ont interrompu le flux de nos blagues et de nos vies. je n'ai pas eu le temps de ranger le livre de jazz dans le petit sac en tissu noir. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser. Et tout l'ordinaire a disparu. Lorsqu'on ne s'y attend pas, combien de temps faut-il pour sentir que la mort arrive ? Ce n'est pas seulement l'imagination qui est dépassée par l'événement, ce sont les sensations elles-mêmes. J'ai entendu d'autres petits bruits secs, pas du tout de brillantes détonations de cinéma, non. Des pétards sourds et sans écho, et j'ai cru un instant, mais qu'ai-je cru exactement ? Si j'écris une phrase comme « J'ai cru un instant que nous avions des visiteurs imprévus, peut-être indésirables, voire tout à fait indésirables », je voudrais aussitôt la corriger, selon une grammaire qui n'existe pas. Elle unirait toutes ces propositions et en même temps les éloignerait assez pour qu'elles n'appartiennent plus ni à la même phrase, ni à la même page, ni au même livre, ni même au même monde.
C'est le premier extrait sur lequel on se propose de réfléchir ensemble avec vous, Cécile Châtelet, Aline Marchand, Philippe Lançon, Le Lambeau, apparu chez Gallimard en 2018. Donc on est à la frontière de la toute première période dont vous parliez, Cécile Châtelet, et de la deuxième. C'était chez Gallimard, donc il avait obtenu le prix Femina, mais aussi le prix spécial Renaudot. À son propos, Catherine Brun, dont vous parliez tout à l'heure, Aline Marchand, parle d'une poétique de la suture. Et on entend dans l'extrait que vient de lire Cyril Marchand, l'idée que c'est pas que qui écrit, qui peut écrire, quelle est la légitimité pour écrire, mais aussi qu'écrire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que écrire cette phrase. On entend même que le corps du texte est lui-même travaillé par comment je vais pouvoir écrire et je suis un autre pendant que j'écris ça. On l'entendait aussi dans l'archive. Alors qu'est-ce que ça peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme réflexion, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du Lambeau de Philippe Lançon, Cécile Châtelet.
Pour peut-être repartir de l'idée de la poétique de la suture et de Catherine Brun et de ce texte, il me semble que ce qui est assez fort, c'est la manière dont Philippe Lançon arrive à la fois à dire ce qui s'est passé et à dire aussi la difficulté de le dire. Et en ajoutant, et c'est pour ça que je voulais revenir sur la poétique de la suture, il faut montrer que plus rien ne sera jamais comme avant.
Oui, et
que
ça termine par « ni au même monde ». Ouais.
Exactement. Et Lançon le dit à nombreuses reprises dans son texte. Il a basculé ce jour-là dans un autre monde. Et on ne revient pas en arrière, en fait. Donc, l'idée aussi de la poétique de la suture, c'est qu'il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas quelque chose qui serait de l'ordre d'un effacement, de remplacer... ce qui a eu lieu grâce même à l'écriture. L'écriture, elle sert à transformer ce qu'on a vécu et à survivre d'une autre manière.
Mais c'est ça qui serait indiqué dès le titre du livre de Lançon par le lambeau, c'est-à-dire que ça procède par éclat, ça procède par bout, et la poétique de la suture, ce serait la capacité qu'aurait la littérature à maintenir ces choses côte à côte, mais pas à les refaire être comme avant.
Tout à fait. Philippe Lançon, il compare beaucoup sa démarche d'écriture aussi à celle de sa chirurgienne. Donc, il a eu toute une partie de la mâchoire arrachée. Et il s'agit, pour cette chirurgienne, de reformer son visage à partir d'un morceau de peau, un lambeau, qui reste. Et son travail, en fait, d'écriture est le même. C'est refabriquer... quelque chose là où il semble qu'il n'y a plus rien, et en même temps garder cette marque, cette cicatrice, quelque chose d'irrégulier. Donc effectivement, le titre nous montre bien cela.
Est-ce qu'il y a d'autres textes qu'on pourrait amener dans cette grande catégorie de la poétique de la suture ? Est-ce que l'idée du fragment, c'est aussi quelque chose qui est apparu dans ce corpus littéraire, Aline Marchand ?
Oui, moi je songe au livre que je ne voulais pas écrire, d'Erwan Larère, et... Mais juste une petite parenthèse par rapport à l'entretien que vous nous avez fait entendre.
L'archive de Philippe Lançon, oui.
On retrouve des choses qu'il a pu dire par ailleurs et qu'on retrouve très bien aussi dans la structure de son livre, où en fait, c'est Le corps est effectivement en morceaux, il tente d'être réparé, mais il s'agit de montrer les cicatrices et non pas de les effacer, sinon ça serait justement faire du révisionnisme, du négationnisme. Donc c'est cette idée de poétique de la suture. Mais on le voit aussi à travers différentes façons de considérer le jeu, et là on le retrouve dans cette archive, puisque dans le livre, il y a l'avant-attentat, puisque l'extrait que vous avez lu, en fait, c'est pas du tout le début du livre, hein, c'est page 77, etc. Donc il y a l'avant-attentat, puis il y a l'attentat où il se transforme le journaliste se transforme en victime, et puis ensuite il y a le patient, et donc là, c'est l'essentiel, je dirais presque, du livre. Donc ça s'arrête pas juste après l'attentat. Et donc on a ces différents soi qui se succèdent avec la tentative, via l'écriture, d'essayer de les rafistoler pour créer un jeu, mais qui...
Qui ne résiste pas complètement.
Voilà, qui est fissuré, qui est en lambeaux. Il dit aussi
que ça ne se superpose pas et qu'il reste une forme d'étrangeté. D'ailleurs, c'est très beau dans cette archive au micro de Laura Adler. Il dit « Je me reconnais presque plus dans l'être de fiction, l'état un petit peu étrange, extatique, bizarre dans lequel j'étais pendant que j'écrivais, que dans l'homme que je suis là en vous parlant. » Et ça, peut-être pour extrapoler un petit peu plus et sortir du champ littéraire stricto sensu qu'on étudie aujourd'hui des 10 ans post-2015, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature, on va dire, post-très gros traumatisme de l'histoire, où il y a des frictions dans le jeu, il y a des frictions dans la position du témoin direct, dans la position de l'auteur. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, post... comment ?
Chez Semprin, par exemple.
Oui, exactement, chez Semprin, voilà, post-concentrationnaire, chez Solzhenitsyn, enfin, voilà, dans des endroits où le morcellement du moi et la question du jeu qui peut ensuite écrire pour témoigner ou pas, c'est encore une autre question, est mise en jeu dans le corps même du texte, puisque j'utilise par deux fois le mot corps. En quoi est-ce que ce corpus-là de texte s'intéresse au corps meurtri, au corps qui se répare ou pas, au corps qui galère à se réparer, au corps qui jouit et rejouit dans tous les sens du terme, Aline Marchand? Est-ce que c'est une ligne de force aussi de ce corpus?
Oui, il me semble que c'est une ligne de force, même s'il ne s'agit pas, encore une fois, d'évacuer tout le récit des traumatismes, bien sûr, physique, psychologique, etc. Mais il me semble que ce qui s'observe dans les écrits, en tout cas, des victimes qui refusent le statut de victime aussi, parce qu'il y a un accent presque de passivité, enfin, un sens de passivité ou judiciaire de la réclamation. Et donc, ils vont plus se revendiquer le statut de survivant ou de rescapé, ça dépend desquels, hein, bien sûr. Et donc, dans ces récits, on a le récit de la reconstruction d'un corps avec ses souffrances et avec l'horizon, qui est une sorte de pied de nez justement à l'attentat, de retrouver un corps en mesure de jouir de la vie. Et donc ça, on le retrouve chez Lançon, me semble-t-il, et d'une façon peut-être encore plus frappante encore dans le texte d'Aristide Barrot, ou encore dans celui d'Erwan Larreur. Donc chez Larreur, donc lui qui était dans la fosse du Bataclan le 13 novembre, il va effectivement se poser la question de la légitimité. Il refuse d'être étiqueté comme une sorte de vedette médiatique du survivant du Bataclan, du romancier qu'il est par ailleurs, qui serait le seul à avoir survécu au Bataclan. Et donc il va se poser la question de la légitimité de sa parole, et il va résoudre cette question-là en décentrant sa parole, et ce qui lui permet aussi de retrouver son corps.
Ça veut dire quoi, en décentrant sa parole?
Il décentre sa parole. Alors, Cécile Châtelet l'a évoqué tout à l'heure. En fait, dans son roman, parce qu'il insiste sur le fait que, enfin, son objet littéraire, puisqu'il insiste, ce n'est pas un témoignage, il y a 16 chapitres, en fait, qui sont écrits par d'autres, par des proches notamment, qu'il insère donc dans son livre pour avoir d'autres points de vue sur l'événement. Et puis lui-même, il va refuser d'utiliser le pronom de la première personne, qu'il va retrouver in fine dans les toutes dernières pages, lorsque le processus de reconstitution aussi de son corps, lorsqu'il retrouve la maîtrise de son corps et notamment la capacité à avoir la gaule et joyeuse, comme pour le reprendre. Lorsqu'il retrouve l'usage de son corps, il va renouer avec le jeu. Mais pendant tout le processus d'écriture, pour éviter à la fois le pathos du témoignage, éviter aussi le soupçon d'instrumentaliser une position comme ça de victime qui publierait un livre et voilà profiterait donc d'une couverture médiatique. Il refuse ce jeu et il va utiliser le tu. Donc il va discuter avec lui-même comme un autre et à travers ce dialogue avec ce tu, il va aussi embarquer d'autres personnages, notamment, et c'est des moments qui sont déroutants aussi dans son livre, notamment il va embarquer des terroristes dont il va imaginer, c'est la part fictionnelle aussi de ce livre, qui revendique aussi le pouvoir de l'imagination et la nécessité aussi de l'imagination, même lorsque on a vécu un événement. Et donc il va imaginer le point de vue du terroriste qui lui a tiré une balle, notamment lui et puis bien d'autres. Et c'est une façon de, via la littérature, me semble-t-il, de casser les discours qui sont verrouillés et d'ouvrir la discussion, le mot est peut-être mal choisi.
Souvent, vous utilisez le mot dialogue.
Le mot de dialogue, je pense qu'il est assez juste. Et de fait, c'est un livre qui est dialogique. C'est-à-dire que c'est un livre qui met en dialogue des points de vue à la fois de proches, mais aussi qui imagine celui qui semble inimaginable, à savoir celui du terroriste. Et qui fait dialoguer aussi plusieurs
soi en soi-même.
Exactement.
Et c'est ça qui est intéressant pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure de d'équipes pluridisciplinaires qui seraient à la rencontre d'équipes des seuls chercheurs ou chercheuses en littérature contemporaine. C'est que dans ce que vous décrivez, qui sont des enjeux très littéraires, se poser la question de quel pronom, de la construction, se rejouent aussi des questions post-traumatiques, de déréalisation, de morcellement du moi, enfin, et c'est là que entrent aussi dans la littérature des vécus psychiques, des vécus post-attentats ou post-violence extrême, et où l'interdisciplinarité fait probablement tout son sens. Alors, on aura probablement, j'espère, le temps de revenir à Erwan Larer. En attendant, on va aller vers Virginie Despentes. Autre façon de travailler la question de la violence et des attentats, mais juste avant, Lazarus de David Bowie. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Il a essayé de regarder la télé ou quelque chose sur Internet. Il a vu une tête coupée, une grenade lancée, une maison explosée, un œil arraché, des passants étripés. Une femme couverte de son sang, suppliant qu'on épargne son enfant. Il ne peut pas allumer la télé sans voir la mort. Elle a bloqué les portes du fond. Vernon regardait ailleurs. Personne ne l'a vu. Il n'y a pas eu de cri avant, parce que personne n'a rien vu venir. Elle a lancé 3 grenades. À la première détonation, tout le monde a su ce qui se passait. Il y avait déjà eu trop d'attentats avant et d'histoires de tueurs de masse. Tout de suite, les gens debout se sont regardés avec horreur. Ils ont plongé au sol à la deuxième explosion. Personne ne voyait d'où venaient les tirs. La salle était déjà remplie de fumée. On toussait, en courant, on trébuchait sur des cadavres. Vernon a repéré sa silhouette. Elle portait un masque la protégeant de la fumée. Elle visait la tête, puis le cœur, 2 balles par corps. Elle braquait sur eux une torche puissante pour voir dans la fumée les formes qui bougeaient, comme dans un jeu vidéo. Le lendemain, la police a compté plus de 300 douilles.
Une grande question dans votre book club de France Culture aujourd'hui, comment la fiction française traite-t-elle des attentats qui ont eu lieu à Paris en 2015? Et c'est aussi comme ça que vous commencez votre article, Cécile Châtelet, les attentats et la fiction à propos de Vernon Subutex 3 de Virginie Despentes. On vient d'entendre ici un extrait sur Bowie qu'elle cite en exergue, ce Lazarus qu'elle cite en exergue. Ici c'est particulier, on passe d'un premier moment, enfin on a dit beaucoup de choses je crois déjà depuis le début de l'émission sur l'hétérogénéité de ce corpus littéraire. On est où avec Vernon Subutex et Virginie Despentes, Cécile Châtelet?
On est entre deux endroits déjà, parce qu'il y a un premier moment dans le texte de Virginie Despentes où elle parle des attentats du 13 novembre 2015, donc des attentats réels. Et elle va insérer de manière incidente dans son texte une chronique en fait de l'effet que ça a fait aux Parisiens, puisque Virginie Despentes n'a pas été impliquée directement dans les attentats,
ni la bande des gens qu'elle imagine pour Vernon Subutex, voilà.
Exactement. Donc elle reproduit ça dans un premier temps avec ses personnages et chronique ce que c'est que plutôt d'avoir peur d'aller à un concert, d'avoir peur et d'imaginer aussi comment on pourrait s'échapper si jamais un terroriste arrivait. Ça, c'est un premier moment dans son texte. Mais à cela s'ajoute un second temps où elle propose le dénouement de sa saga en 3 volumes. Et elle résout cette série avec un attentat fictif. Attentat qui est assez décalé par rapport à ceux qu'a connu l'année 2015, puisque c'est un attentat qui arrive dans une ville imaginaire, Rennes-le-Château, mais qui n'est pas déjà une grande ville, qui arrive avec un terroriste qui est un personnage de femme, qui n'est pas islamiste, et où l'attentat est commandité parce qu'il y a une histoire de règlement de compte et on est plutôt dans l'univers du polar avec ce second attentat. Mais, comme l'a bien montré l'extrait et la lecture que vous en avez faite, ici, on est quand même très proche d'un certain nombre de choses qu'on voit par ailleurs dans le corpus, notamment avec la figure du survivant qui a des résurgences traumatiques du moment qu'il a vécu et de la rencontre aussi avec les terroristes. On le voit bien dans l'extrait. Au début, on a ce personnage qui raconte sa vie, où on est en focalisation interne. Et donc, on voit ce personnage qui a du mal à regarder la télé, qui ne supporte pas la violence, l'actualité, parce que ça le ramène directement à l'événement. Mais cet événement, de toute façon, il revient. C'est ça, le traumatisme. Et on voit aussi la violence de l'événement qui est racontée, mais qui est racontée, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de faire un attentat fictif, et la manière dont le fait Virginie Despentes, qui est racontée donc par la médiation du survivant et par le souvenir de l'attentat. On n'est jamais dans ce qui serait un récit direct de l'attentat au moment où il interviendrait dans la narration. Ce qui intéresse, c'est aussi le trauma.
Vernon Subutex paraît en 2017, on n'est pas très loin de 2015, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir que dans un premier temps, c'est l'effet sourd créé par l'événement sur la population qui intervient dans la fiction de Despentes, et ensuite, mais j'ai l'impression que vous le mettez en lien, Cécile Châtelet, un autre attentat. Pour autant, dans la littérature contemporaine ou dans la littérature en général, on a déjà vu des attentats. Enfin, je veux dire, il y a quand même, je sais pas, j'imagine qu'il y a des figures de la terreur, des figures de terroristes et des figures d'attentats. Ou alors, c'est vraiment nouveau le fait que dans la production de fiction, par exemple, il y ait des personnages de terroristes, il y ait des événements qui sont des attentats. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une sorte de... est-ce que le réel et tout ce qu'on a dit sur comment la littérature le brasse dans les années qui suivent 2015 fait aussi que la fiction a, entre guillemets, plus envie ou plus de pente pour aller vers, c'est le cas de le dire, pour aller vers ces faits-là? Aline Marchand.
Alors,
c'est pas fastoche.
Ouais. Non, c'est pas une question facile du tout. Je pourrais pas forcément y répondre parce que je suis pas spécialiste de la littérature sur le terrorisme, hein, donc
même de manière
mais
générale.
Mais par contre, ce que je pourrais dire,
on voit même débarquer des attentats dans les romans de manière générale.
Ouais, enfin, mais par contre, ça, il me semble que ce qui est frappant, c'est que les attentats et le terrorisme viennent investir la littérature jeunesse. Et donc je voudrais en dire quelques mots, même si je suis pas spécialiste de la littérature jeunesse, parce qu'il me semble que il y a quelque chose qui se joue là, et très tôt d'ailleurs, parce que là je regarde les dates. Il y a par exemple un conte pour enfants illustré qui s'appelle Le village aux mille roses, qui a été écrit par Philippe Nesman, qui paraît en 2016. C'est vraiment adressé à un très jeune public. Et là, on sait que c'est lié aux attentats, de la mesure il y a une adresse, c'est dédicacé à Ariane, qui est une jeune fille qui est morte au Bataclan, qui travaillait pour la revue Rustica. Et donc, à travers cette allégorie des roses, il y a une rose noire mystérieuse qui vient coloniser tout l'espace et empêcher les roses multicolores de survivre. Donc, il y a toute une métaphore sur le terrorisme, les attentats, etc., d'une façon dessinée, accessible à des enfants. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont nouvelles. Il y a d'autres exemples aussi. Alors là, avec un angle peut-être un peu plus, didactique, c'est encore de la fiction. Je pense à l'ouvrage de Dounia Bouzard, Ma meilleure amie s'est fait embrigader, qui, à travers l'usage de la première personne du singulier, on a donc le récit de Camille, cette jeune fille qui s'est fait embrigader, qui est partie en Syrie, etc. Et ensuite de sa donc à la fois de la radicalisation et puis ensuite de sa déradicalisation. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont
nouvelles. Mais oui, je précise quand même ma question, c'est-à-dire oui, je profite de ce que vous fassiez le lien entre la manière dont Despentes, on va dire, intègre à sa fiction les traces de l'attentat réel de 2015 et que plus tard, elles prennent le motif de l'attentat, la figure de la terroriste, pour sa fiction. Enfin, je veux dire qu'elles s'en servent comme un motif qui serve sa fiction. Et du coup, je ne sais pas si je suis hyper claire, mais comment est-ce que le surgissement de la violence extrême dans un pays comme la France, est-ce que ça a produit ce qu'on appelle un imaginaire collectif, quoi? Est-ce que d'un seul coup, je sais pas, est-ce qu'après le 11 novembre, il y a eu plus de villes qui s'effondrent d'avions qui débarquent dans des tours? Voilà, je pose la question.
Alors, effectivement, on a quand même un certain nombre de textes, et Yannick Hennel, par exemple, dans Tiens ferme ta couronne, inscrit aussi, qui parle, donc qui est pas du tout, qui est un roman qui a pas du tout pour sujet les attentats, inscrit lui aussi en passant à un moment les attentats, un personnage est dans un café et d'autres personnages arrivent et disent, ah, il y a eu des attentats. Manière aussi de rejouer la façon dont on a pu apprendre chacun aussi comment les attentats étaient advenus et comment ça avait changé aussi, modifié peut-être nos perceptions. Donc, il y a cette chose-là. Après, c'est vrai qu'il faut quand même aussi le réinscrire dans quelque chose d'un peu plus vaste. Et je pense que de parler aussi du 11 septembre, c'est important. Je crois qu'il y a eu aussi des récits d'attentats ou de projets d'attentats, même dans Mathias Sénard, Rue des voleurs. On a ça et c'est avant... c'est pas lié à 2015, c'est aussi par rapport au septembre et à... Donc il y a ces inscriptions de biais-là qui montrent que peut-être on est en train de réfléchir non pas enfin comme si on n'avait jamais réfléchi à la question du terrorisme et on ne l'avait jamais inscrit en littérature, mais a aussi de, peut-être les spécificités de ces formes de terrorisme-là.
Exactement, ça se trouve, ces événements de 2015... Je sais pas, c'est encore des hypothèses très, t'es probablement trop à la main levée, mais j'ai eu aussi l'impression, comme ça, pour être aussi une observatrice à la fois professionnelle, mais quand même pas une chercheuse en littérature contemporaine comme vous êtes, de voir peut-être revenir à la faveur des attentats de 2015, des réflexions sur les attentats de l'OAS à Paris, par exemple, et la guerre d'Algérie, ça a été concomitant. Revenir, pourquoi pas, aussi, l'action radicale de nationalisme en Corse. Enfin, comme si il y avait quelque chose qui, dans la manière dont la violence avait attaqué le corps social en 2015, avait permis à la littérature, qu'elle soit fictionnelle ou documentaire ou explicative, eh ben, de prendre à bras le corps, au-delà de la mémoire immédiate dont on a beaucoup parlé là, aussi ce motif, voilà, de la violence extrême. Mais cette question va être en suspens parce que ça va être l'heure de conclure. Je voulais juste dire que notre auditrice Claire, dont on a entendu la voix en tout début d'émission, se demandait si c'était une spécificité française, ce corpus littéraire qui, comme ça, vient après 2015. Est-ce que vous avez un petit mot là-dessus, Aline Marchand ?
Alors, nous, on s'est plutôt concentré là-dessus, ouais. Mais tous nos écrivains et écrivaines ne sont pas français ou françaises, si c'est la question de la nationalité là qui importe. Nous, ce qui nous importe, c'est la question de la langue d'écriture. On peut citer, par exemple, Lidl, qui a écrit... Oui. Voilà, et d'autres. Donc non, c'est pas une spécificité française.
Mais c'était en tout cas la spécificité du champ francophone que vous aviez
voilà,
choisi.
Voilà, exactement. Ouais.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Voilà, de toute façon, c'est une réflexion en chantier, donc c'est un début de réflexion, et puis vous, vous continuez, chercheuses et chercheurs, à y travailler, donc on suivra cela. Bonjour Nicole Vulser.
Bonjour Marie.
Vous nous rejoignez tous les mardis pour éclairer un aspect économique du monde des livres. Aujourd'hui, on le sait pas, ou on le sait peu, mais l'édition manque singulièrement de transparence pour les auteurs et les autrices, et c'est à ça que vous, vous réfléchissez.
Oui, c'est même l'un des secteurs les plus opaques vis-à-vis de ses ayants droit. Dans le meilleur des cas aujourd'hui, les éditeurs envoient deux fois par an aux auteurs une réédition des comptes pour qu'ils sachent précisément le nombre de livres qu'ils ont vendus. Bien souvent, les auteurs doivent même réclamer ce document qui leur permet de connaître les droits d'auteur qu'ils vont toucher. Depuis des années, cet état de fait suscite la grogne des auteurs. D'autant plus que les éditeurs brandissent un alibi fallacieux en expliquant qu'ils ne peuvent pas donner les ventes puisque les libraires ont la capacité de renvoyer les livres à l'éditeur s'ils ne les vendent pas. Les auteurs veulent juste savoir ce qui a été vendu quand les clients sont passés à la caisse. Rien de plus normal. Ils ont été quelque peu entendus. Juste avant la fin de l'année, le syndicat national de l'édition et les représentants des libraires ont enfin promis d'engager un petit effort de transparence en annonçant la prochaine mise en place d'une plateforme Phileas, qui signifie fil d'information libraire, éditeur et auteur. Elle permettra à terme aux auteurs de connaître en temps réel et gratuitement leurs chiffres de vente dans toute la France. Un premier petit pas, mais on est loin, très loin, de ce qui existe au cinéma, par exemple, où le Centre national du cinéma recense le nombre de spectateurs à chaque séance, tous les jours, dans chaque salle. On est encore très très loin des pratiques en cours dans la distribution où l'on peut connaître le nombre de boîtes de petits pois vendues dans n'importe quel hypermarché pour faciliter leur réassort.
Alors comment va fonctionner ce nouvel outil, cette plateforme qu'on appelle Phileas ?
Cela devrait démarrer cette année, Marie, d'abord modestement, à l'occasion du prochain Salon du Livre en avril. Dans un premier temps, Phileas fonctionnera avec les données collectées par l'Institut GFK, puis à plus grande échelle, avec les données collectées par 700 librairies volontaires. Seulement le nom et la taille de ces librairies n'a pas été spécifié. Ce sont les adhérents du syndicat de la librairie française qui ne comptent que des librairies indépendantes, soit seulement une petite partie. Des vendeurs de livres, des données très importantes manqueront dans ce panel, puisque l'on compte en France près de 3500 librairies, sans intégrer les grandes chaînes culturelles comme la Fnac, Cultura, les espaces culturels Leclerc, ni même les sites internet, comme le plus important, Amazon. Pour accéder aux données de Phileas, les auteurs ne paieront rien. En revanche, les éditeurs, les diffuseurs et les distributeurs devront s'acquitter d'un abonnement calculés en fonction de leur chiffre d'affaires.
Donc on voit bien l'importance que peut avoir pour les auteurs et autrices d'avoir accès librement et en temps réel à leur chiffre de vente. Mais ce serait quoi l'avantage pour les éditeurs de payer une plateforme qui permettrait aux autrices d'être au courant de tout ça?
En fait, pour le Syndicat national de l'édition, la connaissance des ventes de livres permettra aux éditeurs de calculer au plus juste le tirage de chaque ouvrage afin de prévenir à la fois les ruptures de stock, mais aussi les surtirages. Cela devrait permettre de répondre à un double enjeu économique et environnemental. Il est quand même assez stupéfiant qu'un outil qui semble pourtant aussi important et relativement simple à mettre en œuvre ait dû attendre tant d'années pour voir le jour.
On aurait presque envie de vous demander pourquoi, mais ce serait l'objet d'une autre chronique. Pourquoi pour les petits pois et pas pour les bouquins? Mais justement, parlons des ventes en 2024. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quels livres ont fait les plus grandes ventes?
Alors, la liste du top 50 des meilleures ventes est rendue publique chaque année par l'Institut GFK. Je me suis cantonnée aux 10 premiers romans. Selon Livre-Hebdo, deux romans étrangers, La femme de ménage de Frida McFadden et La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart, deux livres publiés en poche par J'ai lu, arrivent en tête. Le premier frôle les 500 000 exemplaires.
Ok.
Ils sont talonnés par des habitués des meilleures ventes, Joël Dicker avec Un animal sauvage chez Rosie and Wolf et Guillaume Musso qui se classe deux fois dans ce top 10 avec Quelqu'un d'autre chez Calman Levy et Angélique en poche. Ils devancent le lauréat du Goncourt, Kamel Daoud, qui a signé Ouris publié chez Gallimard, qui lui frôle les 400 000 exemplaires, et le lauréat du Renaudot, Gaël Fay, pour Jacaranda publié chez Grasset. Ce classement compte encore Instinct de Mélissa Dacosta publié au livre de poche, Les yeux de Mona, le récit de Thomas Schlesser publié chez Albin Michel et Une belle vie de Virginia Grimaldi publié là encore par le livre de poche. Le magazine Actualité a calculé les auteurs les plus lucratifs. Sans surprise, Guillaume Musso arrive en tête et a généré près de 12,5 millions de ventes l'an dernier, suivi par Joël Dicker, Mr. Tan, le scénariste de Mortel Adèle, Mélissa Dacosta et Morgane Moncomble, dont les quatre ouvrages de romans ont généré plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est là en plein dans le business.
Et juste comme ça, pour donner un ordre d'idée, on en a parlé dans une autre de vos chroniques, Nicole Vulser, mais là, on entend des chiffres mirobolants, 500 000 exemplaires, 400 000 exemplaires. La moyenne des gens qu'on invite au book club, juste pour que les gens aient bien en tête, voilà, des romanciers et romancières qui viennent parler, ou des auteurs de bande dessinée qui viennent parler ici, c'est à peu près quoi?
Mettons 2000.
Et c'est bien.
Eh ben, ça peut être merveilleux.
Voilà. Juste pour qu'on fasse un ordre d'idée. Merci beaucoup Nicole Vulser.
Merci.
Économie du livre à réécouter sur franceculture.fr. Et on retrouve un petit peu notre corpus. On a réfléchi pendant tout ce book club et c'était passionnant avec vous deux à la littérature post-attentat après 2015. On va terminer avec un nouvel extrait de Vernon Subutex. Quelques gouttes de pluie s'écrasent sur le front. Les visages se lèvent pour vérifier que c'est du sérieux. On se redresse, on attrape les cendriers, les verres, les briquets, les tasses, le petit ampli et tout le monde se rabat dans le salon. Le temps de fermer la porte et une averse torrentielle trempe la pelouse. Chacun retrouve sa place. Dans le vaste salon, presque vide, à l'exception d'un sofa et d'un grand nombre de coussins. Lydia branche un iPod doré, un modèle qui paraît préhistorique et qui n'a pas 10 ans. Et elle cherche avec son doigt quelle musique jouer. L'iPod fait un bruit caractéristique de cette époque, comme un léger claquement quand on passe les morceaux. Elle lance « Where did our love go ?» et Vernon lève le pouce. Allongée sur le dos, entourée de cahiers, Olga lit à mi-voix les textes qu'elle prépare pour la prochaine convergence. Ses nuits sur la place de la République ont été fécondes. Elle a de quoi tenir jusqu'au lendemain. Merci beaucoup Cécile Châtelet et merci Aline Marchand d'avoir été avec nous pour ce book club, voilà, chantier de réflexion en chantier. Si on veut suivre ces recherches, on peut les suivre comment ?
Il y aura une publication cette année d'un abécédaire sur la littérature du 13 novembre.
Voilà, donc à suivre, et puis on mettra le corpus des textes qu'on avait choisi de discuter aujourd'hui, et puisqu'on l'a cité, qu'on n'a pas eu le temps de lire un extrait, je dis juste le livre que je ne voulais pas écrire, dont vous avez parlé, Aline Marchand, signé Erwan Larère, et qui a paru chez Kidam Éditeur en 2017, mais tout ça sera reporté sur la page du Book Club. Au son, c'était François Saint-Jour, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Cyril Marchand, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Oriane Mignot, Marianne Chassor et Alexandre Alaï-Begovic, avec qui vous poursuivez la conversation, bien sûr, sur le compte Instagram du Book Club.